Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de
tout ici, Jean-Baptiste,
qui renverse des chaînes, des forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Le titre du message d'aujourd'hui s'intitule « Grandir par nos questions ». Le verset clé, ce serait Éphésiens 3:15. Il nous est dit que « En professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » On va grandir à tous égards. Dans le naturel, les enfants grandissent, c'est normal, pour atteindre leur stature adulte. Et spirituellement, les enfants de Dieu grandissent. Ils ne veulent pas être des bébés, ils veulent grandir. La Bible nous dit que nous devons atteindre la stature parfaite de Christ. Nous sommes le corps de Christ sur terre actuellement. Il n'en a pas d'autre. Nous sommes une partie, bien sûr, mais il n'en a pas d'autre. Vous réalisez ça? Que si Dieu fait quelque chose, il passe par son corps que nous sommes. Son corps rempli de l'Esprit de Dieu. Donc, grandir par nos questions, on va voir ensemble quelques questions que nous devrions et que nous pouvons nous poser. On dirait... Comment peut-on grandir par nos questions? Des fois, on a cette expression, on dit « je me pose une question ». Si on se pose une question à soi-même, est-ce qu'on a les réponses? Des fois, c'est vrai, on les a au fond de nous. Des fois, il faut les chercher ailleurs. Mais des fois, elles sont déjà à l'intérieur. Donc, des fois, on n'a pas besoin d'aller à l'extérieur pour fouiller dans le monde entier et trouver des réponses à nos questions. Il y a des questions qui sont déjà là. La réponse est déjà là. Donc, nous voulons grandir en déclarant la vérité dans l'amour. On peut dire que, par exemple, proclamer la parole de Dieu qui est la vérité, ça produit une croissance spirituelle. Ça, c'est un sens. Mais moi, je voudrais qu'on voit ensemble aujourd'hui l'autre sens. Proclamer la vérité dans l'amour, c'est-à-dire aimez-vous vous-même suffisamment pour être honnête avec vous et pour vous dire la vérité de ce qu'il y a en vous. Comprenez ce que je veux dire? Quand vous vous posez des questions, ne fuyez pas, mais répondez honnêtement à vos propres questions. Donc, un début d'année, ça peut être un aspect, c'est que nous avons des projets, nous avons des rêves, nous prenons des décisions, des résolutions, tout ça. C'est normal. Au début de l'année, c'est normal, on fait des choses comme ça. Sauf celui qui n'attend plus rien. La personne qui est complètement déprimée ou désabusée ou accablée n'attend plus rien. Mais la personne, disons normale, elle a des projets, des rêves. Et celui qui est abattu, Dieu peut lui donner de nouveau des rêves, comme le promet Jérémie 29 quand il est dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. » Dans le contexte, c'était des gens qui étaient exilés, loin de leur pays. D'accord? Donc, ils avaient de quoi être déprimés. Mais Dieu leur dit à ce moment-là, il y a encore des bonnes choses. La fin de l'année, habituellement, elle sert à faire un bilan. Bon, alors, il y a les déceptions, il y a ce qu'on n'a pas réalisé, etc. Donc, on peut dire, ah, si on savait ce qui nous attend à l'avance, ça nous aiderait bien. Hein? Donc, tout le monde se souhaite bonne année, bonne santé. Mais des fois, quand on regarde en arrière, oui, bah... L'année d'avant aussi, tout le monde m'avait dit bonne année. Et je vois, hein, ça n'a pas été... Mais l'important, c'est qu'on se souhaite de bonnes choses. C'est déjà bien. Donc, on va avoir quelques questions qui pourront nous aider à grandir dans une nouvelle année par ces questions. La première question, c'est quelle décision est-ce que je prendrais sachant que je ne peux pas échouer? Il y a des décisions que nous prenons, des choix que nous faisons tous les jours, mais on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va donner. On l'espère des fois. Et ce qui nous fait souvent hésiter, c'est la peur de l'échec. Donc pensez un moment que vous allez être amené à prendre un certain nombre de décisions cette année. Et parmi ces décisions, est-ce qu'il y a des décisions que vous prenez sachant que ça ne peut pas échouer? Ça, c'est quelque chose qui transforme notre vie parce que, je donne une illustration. On va chercher chaque fois des illustrations ensemble. Nous avons tous déjà eu le désir, à un moment ou un autre, et j'espère aujourd'hui aussi, le désir de partager Christ à quelqu'un. Que quelqu'un donne sa vie à Jésus par notre témoignage. Et ce qui nous fait hésiter, c'est que nous avons essuyé des échecs dans le passé. On a essayé de témoigner, des gens n'ont pas reçu, etc. Donc, quelle décision est-ce que je prendrai sachant que je ne peux pas échouer? C'est une décision où, conduit par Dieu, je me dis, maintenant Dieu me dirige vers une personne qui a faim et soif de la parole. Quelqu'un qui est prêt, qui est mûr, qui vraiment veut recevoir. Vous voyez, ça c'est une illustration de quelque chose qui, une décision qu'on prendrait volontiers parce qu'on sait déjà la réponse. Comprenez? Si vous sortez du culte maintenant, que rencontrez quelqu'un dans la rue, que vous savez, sans l'ombre d'un doute, cette personne est prête à recevoir le témoignage, vous n'auriez aucune hésitation ni retenue. Vous courriez lui en disant, ça y est, j'ai la réponse, j'ai ce qu'il te faut, c'est ce que tu attends. Mais qu'est-ce qui nous fait donc souvent hésiter? C'est la peur de l'échec. Alors nous avons besoin, chaque fois on va voir ensemble un verset. Vous pouvez l'appliquer à d'autres domaines, mais chaque fois je vais essayer de trouver une illustration, quelque chose de concret. Qu'est-ce qui va nous aider? C'est Josué 1.8 qui nous dit, je commence par le début, hein, il faut placer la parole dans notre vie de tous les jours. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit, il nous est dit. Pas juste 5 minutes de temps en temps. Jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Peut-être un chef d'entreprise, entendant le message, peut dire, ça c'est le verset pour moi, entreprise, ça fait dire. Mais ici, c'était Josué qui avait une entreprise à mener à bien, faire rentrer le peuple dans la terre promise. Donc, pour nous, ça peut être toutes sortes d'autres choses que nous entreprenons. Et il nous est dit, Dieu dit lui-même, c'est pas moi qui le promets, j'aurais pas les moyens de vous promettre des choses, mais Dieu lui-même dit que si ce livre, la parole de Dieu, vous la méditez jour et nuit, vous aurez du succès et vous réussirez. Ça va justement produire en vous cette capacité de prendre les bonnes décisions, sachant que vous connaissez le résultat. Il y a des choses que vous pouvez être sûr du résultat. Et ça va vous aider parce que vous aurez alors plus d'assurance. Et c'est l'assurance justement qui nous ouvre les portes. C'est pas l'hésitation et le doute. Comme Pierre avait commencé à marcher un peu sur l'eau, ce qui est formidable. Et au bout d'un moment, voyant le vent, les vagues, il a coulé. Jésus lui a dit, homme, peu de foi, pourquoi as-tu douté? Tu avais bien commencé. Continue. Le verset 9 est bien aussi, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Alors si quelqu'un veut mettre ce message en pratique, témoigner à quelqu'un, mais si vous avez une réaction négative, ce n'est pas parce que quelqu'un réagit, même avec colère, que vous avez échoué. Vous ne savez pas ce que va produire la semence que vous aurez plantée dans son cœur. Il va peut-être partir fâché et au bout d'un moment, ça va le poursuivre. Donc, ne soyez pas trop hâtif à conclure, à dire « je croyais que ça marcherait, pourtant j'étais plein d'allants et j'ai témoigné et puis il n'a pas écouté ». Non, ne dites pas ça, ne dites pas « il n'a pas écouté ». Vous avez semé quelque chose. Et vous pouvez vous attendre à ce que Dieu continue son travail. Une autre question. Quelle est la chose que je dois éliminer de ma vie, car cela me retient d'atteindre mon plein potentiel? Et quand je dis la chose, peut-être c'est les choses, il y en a plein, Mais ce qui est important, c'est pas que ça soit noyé au milieu de plein de choses. L'important, c'est que si Dieu vous parle et vous montre, il y a une chose que je dois éliminer de ma vie. Alors c'est la chose qu'il faut traiter en priorité. Si je connais cette chose, alors c'est bien. Je n'ai plus qu'à prendre une bonne décision, avoir le courage de dire je vais m'attaquer à ce problème maintenant. Je sais que, par exemple, on cite des sportifs, de grands sportifs, qui pourtant ils fument. D'accord? Et on dit que bon, le tabac, ça a une action sur les poumons, ça coupe le souffle, ils auraient des capacités physiques beaucoup plus grandes s'ils ne le faisaient pas. Mais parce qu'ils connaissent une certaine réussite, on dit que ça c'est un problème annexe. Oui, mais s'ils ne le faisaient pas, ils auraient peut-être plus de capacités encore. Donc il se peut que vous ne soyez pas dans une situation d'échec dans votre vie. Mais je parle ici de plein potentiel. Je ne dis pas que si vous êtes à 51% de vos capacités, vous pouvez dire je suis au-dessus de la moyenne, ça va, ça tourne. Non. Ce que nous voulons, c'est de voir comment est-ce que je peux grandir. Rappelez le titre, grandir par nos questions. Il ne s'agit pas de faire une évaluation et d'être juste moyen. Ça n'intéresse pas Dieu que nous soyons moyens. Il veut que nous soyons remplis. Il veut la plénitude pour nous. Donc, si je connais cette chose, il ne me reste plus qu'à prendre la décision. Mais si je ne sais pas, nous pouvons réfléchir à notre vie et dire de quoi est-ce qu'elle est faite. Quelles sont les choses qui remplissent ma vie? Est-ce qu'il y en a une? Je parle maintenant d'une chose en particulier. Parce que vaut mieux traiter une chose après l'autre. Si vous avez conscience pendant que je parle, il y a vraiment une chose, ça a toujours été un handicap dans ma vie. Ça peut, par exemple, une chose très fréquente dans les églises, c'est des réactions que nous avons. Par exemple, nous savons que nous avons tous besoin d'être aimés, de se sentir aimés. Et dans les églises, il se peut que le dimanche matin, vous entrez, quelqu'un ne vous dit pas bonjour. Il y en a, ça les met par terre. C'est une réaction de on ne se sent pas accepté, ou on ne se sent pas aimé, on se sent rejeté. Et immédiatement, ça a une action négative. Alors, ça peut être des choses comme ça, des choses que je suis conscient au niveau de mon âme, dans une certaine situation, je réagis toujours de la même façon. Et c'est comme un cycle, quelque chose de négatif. Quelque chose m'arrive, j'ai une réaction négative qui produit alors des actions négatives et finalement, ça m'entraîne de plus en plus bas. Et ça, c'est une chose dont il faut être conscient et dire, Seigneur, je sais que par le passé, j'ai toujours agi de cette façon. Quand quelque chose m'arrivait, j'ai toujours réagi comme ça. Prends un exemple concret, ça peut être, je l'ai dit, la déception, un sentiment de rejet, ne pas se sentir aimé. Ça peut aussi être une réaction de défense. Il y a beaucoup, dans le monde, il y a beaucoup d'agressions de toutes sortes. On vit dans un monde de violence et d'hostilité. Donc, nous ne sommes pas non plus parfaits et l'Église est aussi constituée de gens qui se blessent mutuellement. Et dans les familles aussi, ça arrive. Il n'y a pas une journée parfaite. On peut se critiquer, etc. Donc, il faut aussi voir qu'est-ce que j'ai fait. Peut-être souvent, quand on me dit quelque chose qui m'est désagréable, j'ai une réaction de défense où je me braque, je me ferme. Pendant que je fais ça, je me ferme à la personne et aux attaques qu'elle produit à mon égard, mais je me ferme aussi à l'action de Dieu. Parce que c'est le même cœur qui est fermé à l'égard des autres, qui est fermé à l'égard de Dieu. Vous ne pouvez pas dire, j'ai des problèmes de relation, je suis fâché, mon cœur est endurci envers une personne, mais envers toi Seigneur, non, là ça marche bien. Parce que c'est le même organe spirituel, c'est le cœur. Il est soit dans un état où il est ouvert, élargi, soit il est dans un état fermé, endurci. Vous voyez, donc ça peut être, c'est à vous de moi, je ne lis pas dans vos pensées et je ne sais pas tout de vous. Mais donc, c'est à vous d'identifier en disant, oui, c'est ce problème. Chaque fois que je suis dans telle situation, je réagis de telle façon. Ça arrive, ça, ces choses que je cite là, ça arrive très fréquemment. Donc, on peut réfléchir Ou, si on a le courage, on peut demander à quelqu'un. On peut dire, est-ce que tu vois quelque chose dans ma vie qui te dérange, que tu m'as jamais dit, et ça demande qu'il y ait déjà une bonne communion. Parce qu'on sait à ce moment-là, quand la personne va me le dire, ce ne sera pas pour me détruire, mais pour m'aider. Mais ça, c'est bien parce que, vous savez, c'est une tendance naturelle, on voit souvent mieux les défauts chez les autres que chez soi-même. Donc, si on demande à quelqu'un, cette personne pourra dire, bah oui, ça fait des années que ceci ou cela me gêne chez toi. Donc, on peut demander à quelqu'un d'autre. On peut aussi prier pour que Dieu nous montre. Vous saviez ça qu'on peut faire? Je le place à la fin parce que souvent, c'est notre chose naturelle. On réfléchit, on cherche, on demande à tout le monde. Et à la fin, on se dit, et si je priais à ce sujet? Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais de faire dans ce sens. Parce que Dieu utilise notre intelligence, notre réflexion, peut être une façon dont Dieu nous dirige. Dieu utilise quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre peut être la personne que Dieu utilise pour amener quelque chose dans notre vie. Et ça peut aussi être fait dans l'autre sens, bien sûr. Prier d'abord. Mais vous voyez, ça ne veut pas dire que c'est mal de faire ça. Réfléchir, demander aux autres. Le verset pour nous encourager, c'est Philippiens 3:7. Dans ces choses qui pour moi étaient des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence et de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Vous voyez, c'est le modèle biblique dans lequel nous devons pouvoir de plus en plus nous identifier. Que même s'il y a une chose qui nous semble précieuse, qu'est-ce qui peut être précieux à nos yeux? Même si c'est une folie, d'autres nous critiquent, je me réfugie dans une espèce de tour où je m'isole, et là je me sens en sécurité, et je me dis tant pis si les autres ne m'aiment pas, mais je leur ferme l'accès aussi à ma vie, et on a l'impression pendant un temps qu'on est fort comme ça. Mais on est fortement emmuré surtout. Et donc, même des choses qui nous semblent des gains, qui nous semblent quelque chose de bien, il faut apprendre à les voir comme une perte en comparaison de ce que représente Christ. Et je vous rappelle toujours la définition de Christ, c'est celui qui est oint et qui a l'onction. Il n'est pas dit juste avoir Jésus dans sa vie, il est dit Christ, c'est-à-dire la personne de Jésus, Fils de Dieu, mais loin du Saint-Esprit, avec l'onction qui l'accompagne. Voyez, vous pouvez avoir une relation avec Jésus comme mon fils peut avoir une relation avec moi, filiation, il fait partie de ma famille, mais il y a une différence entre avoir l'onction qui se manifeste. Et nous avons besoin de l'onction. C'est l'onction qui brise le joug, c'est l'onction qui nous aide à vivre au quotidien. C'est la capacité du Saint-Esprit en nous. Troisième question. Suis-je sur le chemin de quelque chose d'absolument merveilleux ou sur le chemin de quelque chose d'absolument médiocre? Le Proverbe 14:12 dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Donc, il y a des choses que nous devons voir. Nous ne sommes pas toujours du jour au lendemain arrivés à destination. Je parle aussi pour nos objectifs personnels. Il y a des choses qui prennent du temps. Les jeunes, vous en savez quelque chose, ceux qui sont en plein milieu de leurs études. Vous n'êtes pas un jour c'est la rentrée, le lendemain c'est l'examen. Il y a toute une période de travail et de préparation en vue de quelque chose. On peut dire pour notre vie, c'est la même chose. À partir du moment où j'attaque un domaine, un travail, un domaine personnel, quelque chose que je veux changer dans ma vie, objectif personnel que je veux atteindre, quelque chose se met en route, mais alors ce que je dois voir, c'est ce que j'ai mis en route, vers où ça me conduit. Est-ce que c'est une voie qui me paraît droite, mais pourtant c'est la voie de la mort? Ou est-ce que c'est vraiment un chemin conduit par Dieu. C'est là que Dieu nous a donné sa boussole. Il est possible de le savoir. Par exemple, le psaume 119 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » De voir, est-ce que c'est ce sentier qui est éclairé, où est-ce qu'il mène? Comme je l'ai dit, ça ne se révèle pas du jour au lendemain. Mais ça se fait petit à petit. Il se peut que dans ma vie, il y ait comme une érosion. Est-ce que c'est l'érosion? L'érosion, les scientifiques calculent, par exemple, quand ils voient une rivière. Et quand ils voient ce que cette rivière a creusé, donc ils calculent par rapport à l'eau qui coule et ils calculent le nombre d'années qu'il a fallu à la rivière pour creuser le ruisseau. Bon, ils ne tiennent pas compte de certaines choses, des fois comme le déluge ou d'autres choses, mais on peut comprendre que l'eau qui coule naturellement passe par-dessus le rocher. Mais quand on voit que l'eau est capable de creuser la roche avec beaucoup de puissance, avec une longue action, alors on voit que dans notre vie, ça peut être pareil. Je peux avoir l'impression d'être vraiment sur la bonne route. Mais en réalité, il y a beaucoup de choses qui sont en train de subir une érosion. Et ma vigueur spirituelle est en train de faiblir un petit peu. Vous avez alors les signes annonciateurs. Moins d'intérêt pour la parole de Dieu, peu d'enthousiasme pour la prière. Et puis, au bout d'un moment, on peut dire qu'on ne voit plus tellement l'intérêt de venir au culte régulièrement, etc. Il y a plein de petits indicateurs comme ça qui font que, peu à peu, je veux dire, attention, mais je suis en route pour quelque chose, on peut dire de médiocre, dans le sens que ça ne va me tirer que vers le bas. Il n'y a pas de bénédiction de Dieu au bout de la route. Ou alors, vous pouvez dire, même si vous n'avez pas l'impression, vous êtes sur le chemin de quelque chose de merveilleux, si vous savez que vous êtes en train de vivre une vie spirituelle riche, une vie spirituelle intense, même si vous n'avez pas des visions tous les jours ou des miracles, mais vous savez que vous êtes en communion avec Dieu en train de vivre des choses. Voyez, ces choses que je vous dis, moi je ne peux pas répondre à votre place, mais vous pouvez honnêtement répondre. Vous pouvez dire, Seigneur, où on en est tous les deux ensemble dans notre relation? Je pense que des parents devraient le faire avec leurs enfants des fois. Des couples devraient le faire entre eux, dire où est-ce qu'on en est. Je me rappelle d'un couple ami de mes parents. Un jour, il y avait eu des mots plus élevés entre eux. Et puis, il y en a un qui a dit à l'autre, « Depuis quand est-ce qu'on se parle sur ce ton, tous les deux ?» Pour remettre les choses en place en disant, « Mais attends, on n'avait pas l'habitude de ça, de se crier dessus, ou de dire quelque chose est en train d'être dans la mauvaise direction. » Une autre question. Si tout le monde en France était à mon niveau de spiritualité, y aurait-il le réveil dans le pays? Beaucoup de gens veulent le réveil, voudraient que des masses se tournent vers Christ. Et on regarde aux autres de ce qu'ils devraient faire pour que le réveil ait lieu. Mais regardons à nous-mêmes. Et je dis, cessons de perdre notre temps à critiquer ceux qui ne sont pas en point de suspension ou ceux qui ne font pas. On a toujours de bonnes raisons pour expliquer pourquoi le réveil n'est pas là, à cause de ceci, à cause de cela, à cause de ceux qui ne prient pas, à cause de ceux qui ne font pas ça, etc. Mais moi, je vois un verset dans la parole de Dieu où Jésus a un entretien avec Pierre, c'est dans Jean 21, verset 21. Et en voyant Jean, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » La réponse de Jésus, c'est « Toi, suis-moi. » Ne te pose pas des questions sans cesse sur les autres, sur l'état de l'Église, sur ce qu'il faudrait faire en France. La seule question vraiment importante, c'est mon niveau de spiritualité, ma communion avec Dieu. Si Jésus te dit « Toi, suis-moi », qu'est-ce que tu lui réponds? Vous connaissez vous-même les réponses que certains ont donné quand Jésus a posé cette question. Seigneur, oui, mais moi d'abord, je dois faire d'abord ceci, enterrer mon père, d'autres devaient faire cela. Ceux qui ont été invités, certains n'avaient pas le temps parce qu'ils avaient venu d'acheter un champ, d'autres avaient des bœufs qu'ils devaient essayer, d'autres se sont mariés, toujours. Oui, beaucoup n'ont pas dit, non Seigneur, je ne veux pas. Beaucoup ont dit, oui Seigneur, mais moi d'abord, j'ai d'abord d'autres choses à faire. D'abord, il faut que je construise ma maison, il faut que je termine ceci, il faut que je termine ma carrière professionnelle. J'ai entendu le témoignage d'un homme, pas loin d'ici, dans le Haut-Rhin, un chrétien vraiment qui marchait avec le Seigneur, mais il était appelé au ministère, il n'a pas voulu rentrer dans le ministère, parce qu'il était tout près de la retraite. Il a dit, Seigneur, attends encore 6 mois, et j'aurai ma retraite, et après tu auras tout le temps que tu voudras. Il est mort. Il est mort quelques semaines avant. Et il n'a jamais atteint sa retraite. C'est une histoire vraie qui s'est passée il n'y a pas trop longtemps. Seigneur, moi d'abord. Une autre question. Est-ce que le diable sait qui je suis? Qu'est-ce qu'elle vient faire là dans cette question? La question, on peut la traduire autrement. Est-ce que je représente une menace pour le royaume du diable? Est-ce que c'est important que je sois là ou pas là le dimanche matin? Est-ce que c'est important ce que je fais dans le royaume de Dieu? Oui, c'est important. C'est très important. Mais plus important est que vous en soyez conscient. Vous avez une place. Si vous n'êtes pas à cette place dans le royaume, cette place est vide. Elle n'est pas automatiquement remplacée. Ce n'est pas des machines. S'il manque une machine, on construit une autre machine pour remplacer. Vous êtes une personne unique. Et l'important, c'est est-ce que le diable vous connaît? Est-ce qu'il sait que quand vous vous levez le matin, ça représente un danger pour vous? C'est ça, pour lui, oui. D'accord? Il ne sait pas ça. Il ne sait pas ça dans le sens et qu'il ne sait pas tout, mais je veux dire, si vous êtes actif spirituellement, si vous êtes des gens de prière, si vous êtes des gens qui travaillez dans le royaume, il y a quelque chose qui se produit. Et Jacques 4:7 dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » Donc ce que je veux dire par cette question, c'est, est-ce qu'il vous connaît dans le sens, est-ce qu'il y a du poids dans le royaume de Dieu, par votre action, par votre participation? Et donc là, une menace aussi. Vous vous rappelez que quand... Dans Actes 19, quand ils ont essayé de chasser les démons, les 7 fils du sacrificateur, et qu'ils ont utilisé le nom de Jésus, nous vous conjurons au nom de Jésus que Paul prêche, ils leur ont répondu, nous connaissons Jésus et nous savons qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Ça veut dire que Paul était quelqu'un de connu dans le royaume du diable par son action. Et par son autorité. Donc, je vous lance cette question pour vous dire, est-ce qu'il vous connaît dans le sens, est-ce que vous êtes quelqu'un qui exerce votre autorité? Est-ce que quand vous arrivez en scène, vous arrivez à faire fuir les démons? Normalement, je dis oui, vous avez le nom de Jésus. Si vous ne l'utilisez pas, ben c'est dommage. Hein. C'est dommage pour vous, c'est peut-être dommage pour la personne que vous auriez pu aider, mais... Vous pouvez être réellement une menace. Et ce verset extraordinaire de réaliser qui nous est dit, il fuira loin de vous. Parce que assez souvent, c'est le diable qui court après les chrétiens qui sont tout le temps menacés. Mais la Bible dit que ça devrait être l'inverse. Mais parce qu'en général, on sous-estime l'ensemble du verset qui dit, soumettez-vous donc à Dieu. Quand vous marchez vraiment en communion avec lui, que c'est lui qui dirige votre vie, alors ça change tout. Ça va un peu dans le même sens, la question suivante. Suis-je en train de fuir quelque chose ou suis-je en train de poursuivre un but? Il y a des gens qui fuient. Toute leur vie n'est que fuite. Il y a des gens qui, des fois, quittent un pays. Ils vont à l'autre bout du monde pour reconstruire leur vie. Mais s'il y a des choses qui ne sont pas réglées intérieurement, Des fois, ça ne sert à rien. Un déplacement géographique ne sert à rien. Ce n'est que emmener le problème avec soi et les mêmes choses vont réapparaître. Donc, est-ce que je suis en train de fuir quelque chose? On peut avoir des problèmes dans une église, on peut être amené à aller ailleurs, ça c'est des choses qui arrivent. Mais on sait aussi, il y a des gens qui n'ont jamais réglé un problème et toujours fuir d'église en église jusqu'à ce qu'ils trouvent. Mais ils ne trouveront pas parce que le problème, ils l'emmènent avec eux. Il y a des gens qui vivent malheureusement leur vie de couple comme ça. Ils ont un problème entre eux, en eux, ils arrivent à trouver un conjoint. Si ce problème n'est pas réglé, il y a un problème de couple, il y a divorce, on essaye de trouver un nouveau conjoint et la chose se reproduit encore et encore. Parce qu'on est en train de fuir quelque chose qui n'a jamais été réglé. Le passé, il est passé. On ne peut pas le revivre. Mais en Christ, il y a une nouvelle vie qui nous est offerte. Et ce n'est pas peu de choses. C'est pas peu de choses. Et c'est la parole de Dieu qui nous le promet de ça. Dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un point de départ, une nouvelle façon de vivre notre vie. Bien sûr, tant que les souvenirs du passé sont là, tant que les blessures sont là, on a beau avoir cette réalité de la nouvelle créature en Christ, on n'en profite pas. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut des fois qu'il y ait un travail qui soit fait à ce sujet. Mais ça commence par la révélation que Dieu nous offre une vie nouvelle. L'apôtre Paul devait faire face à ça. Ce n'était pas facile pour lui. Il a quand même été un persécuteur de l'Église, un meurtrier. Ce n'est pas une petite chose. Il a travaillé avec toute son ardeur et son énergie à poursuivre les chrétiens, les mettre en prison, les faire condamner. Il a approuvé le meurtre d'Étienne, il nous a dit, il était là en tant que jeune homme déjà. À un moment, on dit qu'il respirait le meurtre, la haine et le meurtre. Respirait, c'est-à-dire il en était rempli. Donc maintenant, il se présente comme apôtre, prédicateur. Il avait des problèmes intérieurs à régler. Et il nous montre comme il l'a fait. Dans Philippiens 3, 13, il dit... Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Oubliant, oublier, ça ne veut pas dire que au bout d'un moment, à cause du temps, je perds la mémoire. Oublier, ça veut dire c'est une action. C'est quelque chose que je fais délibérément. Je choisis d'oublier. Vous voyez la différence ? Ce n'est pas juste quelque chose que je n'y pense plus. Je choisis d'oublier, oubliant ce qui est en arrière. Parce qu'une pensée peut vous venir et vous pouvez choisir alors de l'entretenir. Ou de dire non, je ne veux pas plus penser à ça. Je ne dis pas que ça vient du jour au lendemain, vous en êtes complètement débarrassé. Dieu peut faire un miracle aussi dans ce domaine pour effacer notre mémoire. Mais nous pouvons aussi avoir notre part. Et notre part, c'est que comment pouvez-vous chasser une pensée, oubliant ce qui est en arrière? Vous savez que vous ne pouvez même pas la chasser par une autre pensée, mais vous pouvez la chasser par des paroles. Et ces paroles, les paroles correspondent à des pensées, vous avez des images mentales, viennent remplacer les pensées que vous aviez avant. Qu'est-ce qui vous aide, par exemple, à pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal? C'est de parler du sacrifice de Jésus sur la croix qui disait « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Plus vous pensez à lui, son attitude, comment il a fait alors qu'il avait toutes les raisons, entre guillemets, d'en vouloir à des gens qui avaient été injustes à son égard, alors on voit son attitude, on voit son sacrifice, et cela, je peux dire, se superpose sur nos propres raisons que nous aurions d'en vouloir à d'autres. C'est une action. Oublier ce qui est en arrière. Moi, je le fais depuis des années, ça. Je suis comme vous. Des gens me font du mal, je dirais, entre guillemets, à longueur de journée. Il y en a toujours, partout. Chaque fois, je dis, chaque fois, je pense à Jésus. Je pense à ce que lui a souffert, Et dès que je pense à ça, je dis, cette chose, c'est une petite chose. C'est rien du tout. Et je ne veux pas permettre à quoi que ce soit de demeurer en moi. Donc, oublier en ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Je me remplis de choses que je désire faire pour Dieu. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Ça, c'est mon motif de dire, il y a une vocation, il y a un appel, il y a un prix, il y a une récompense. Le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je ne sais pas quelle place j'aurai dans le royaume de Dieu. Tout le monde ne pourra pas être directement à côté de Jésus. Physiquement, je veux dire. Mais on sera dans sa présence. Et il nous est dit qu'il y a un avenir glorieux. On ne va pas flotter sur un nuage simplement, d'accord? On va avoir une action dans le royaume. Il y a un prix de la vocation céleste. Le prix, déjà, c'est la reconnaissance. Quand il dit, celui-là, je le connais. Fait partie des miens. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, parfaits ici dans le sens pas d'une perfection morale, plus de péché, plus rien du tout, parfaits des gens qui atteignent une certaine maturité, qui arrivent à surpasser des choses qui troublent des gens plus sensibles, niveau émotion, ou des gens qui ont un comportement d'enfant, qui sont facilement blessés. Donc, nous qui sommes dans cette phase de maturité, ayons cette même pensée. Quelle même pensée? Cette pensée d'oublier ce qui est en arrière et de courir vers le but. Ça, c'est la pensée que l'apôtre Paul voulait partager avec ceux qui liraient les Philippiens. Si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Ça veut dire que, bon, on n'est peut-être pas d'accord sur tout, mais on peut se mettre d'accord sur une chose. On oublie ce qui est en arrière et on court vers le but. Une autre question? Toujours importante, toujours d'actualité. Que puis-je faire pour mieux utiliser mon temps? Combien de fois on aimerait avoir plus de temps pour beaucoup de choses? Je ne peux pas vous donner plus de temps. Tout le monde n'a que 24 heures à sa journée. La seule chose que je peux vous dire, c'est on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Même quand nous voyons, surtout dans nos pays, on voit toute une génération de personnes qui ont des retraites plus ou moins aisées, qui voyagent beaucoup, etc. Ils ne pourront pas voir le monde entier. Hein. Même s'ils avaient encore 30 ou 40 ans de retraite. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de choses dans le monde que nous ne verrons pas, que nous ne pourrons pas faire. Tant qu'on a le seul choix que nous avons, c'est de choisir. On ne peut pas tout faire, mais nous pouvons choisir. Et nous pouvons tout d'abord choisir de dire, s'il y a des choses que je n'ai pas ou que je n'ai pas pu faire, je peux tout de même être heureux. Parce que ça, c'est aussi la tentation. La tentation, c'est de penser, si je n'ai pas fait ça, si je n'ai pas eu ça, je suis frustré. Non, on peut être heureux là où nous sommes. Même en n'ayant pas tout vu, même en ayant peut-être moins de biens matériels que d'autres ou que sais-je, on peut choisir et quand on fait le bon choix, Dieu nous donne une promesse. Il nous dit que Matthieu 6, 33, si vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous voyez, c'est un verset que beaucoup connaissent très bien. Mais il est encore tellement d'actualité. Toutes ces choses pour lesquelles nous travaillons, que beaucoup courent après, nous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voyez, ça nous place dans ce contexte de temps, si je n'ai pas le temps. Je n'ai peut-être pas le temps de faire tout ce qui est sur ma liste des choses que je voudrais faire maintenant, aujourd'hui, mais il y a des choses que je peux réaliser aujourd'hui, des choses que je peux expérimenter aujourd'hui, et d'autres, ça sera pour demain. Donc, savoir gérer sa journée, c'est aussi comme ça. C'est important. Bien sûr, en tant que chrétien, vous savez que vous avez un combat quotidien pour avoir votre temps personnel avec Dieu. C'est un combat quotidien. Que personne ne me dise, pour moi c'est facile. Je ne le crois pas. Je ne crois pas que ça existe un chrétien pour qui c'est facile. Il y a toujours une lutte. Il y a toujours quelqu'un qui essaie de vous distraire de ce temps de qualité avec Dieu. Et moi, je ne vous dis pas à quel moment de la journée il doit être. C'est à chacun de voir comment il organise sa journée. Mais c'est sûr que si vous essayez de réserver seulement la dernière heure de la journée pour Dieu, entre 22h et 23h, vous n'êtes pas au bénéfice de ce que Dieu aurait pu vous dire ou des prières que vous aurez pu faire pour toute la journée. D'accord ? Donc, vous êtes quand même censé prier sans cesse, avoir un temps avec Dieu ou plusieurs pendant la journée. C'est ça que ça veut dire, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, comment tu vois les choses ? Comment tu veux que j'agisse dans cette situation ? La justice de Dieu. Seigneur, je veux que c'est toi qui règne et qui aies l'autorité sur ma journée, sur les gens que je vais rencontrer, sur la façon dont ça va se dérouler. Des fois, ça ne demande pas beaucoup, vous savez. C'est aussi ça le piège du diable. Il essaie de nous empêcher de prier. S'il voit que vous êtes déterminé à prier, il va vous convaincre que si vous ne priez pas au minimum une heure, ça ne vaut rien. Alors qu'une prière d'une minute ou de cinq minutes peut complètement changer votre journée. Vous pouvez simplement des fois sortir de votre maison et dire « Seigneur, merci car tu es avec moi, tu me diriges maintenant par ton Saint-Esprit aujourd'hui » et ça peut transformer votre journée. Mais pendant ce temps, vous êtes peut-être sous la condamnation en disant « Ce matin, j'ai pas eu le temps d'avoir mon temps de la lecture de la Bible, etc. » Donc, ça sera automatiquement une mauvaise journée. Ça serait encore une façon de se faire piéger. Donc, sortons de ces canevas et disons simplement « Seigneur, je veux utiliser mieux mon temps. Je veux que ce soit un temps, chaque moment doit être un temps de qualité. » Je suis bien désolé pour les gens qui, toute la journée, ils attendent que ce soit le soir, que leur journée de travail soit finie. Toute la semaine, ils attendent que ce soit le week-end. Et toute l'année, ils attendent que ce soit les vacances. Et toute leur vie, ils attendent que ce soit la retraite. Comprenez ? Ils ne vivent jamais heureux dans le quotidien. Mais ici, Jésus disait, à chaque jour suffit sa peine. On peut dire, et pour chaque jour est réservé aussi une part de grâce et quelque chose d'heureux que Dieu a mis dedans. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Il faut les inviter à venir avec vous pour toute la journée. D'accord ? Et donc, c'est pas tellement compliqué. C'est à la distance d'une prière. Dire, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, Père, que le bonheur et la grâce m'accompagnent aujourd'hui. Que des bonnes choses se passent. Et la dernière question qu'on va se poser. Saurais-je reconnaître Jésus si je le rencontrais dans la rue ? Nous sommes appelés à connaître Jésus de plus en plus intimement. N'est-ce pas vrai ? Connaître Christ. Ça veut dire que le moment où Jésus se révèle à nous, qu'on ne soit pas comme l'apôtre Paul, « Seigneur, qui es-tu ?» Alors qu'il était censé servir Dieu. Et quand Jésus lui apparaît, il ne sait même pas que c'est lui. Mais moi, je dis aussi reconnaître Jésus au travers des autres et de chaque circonstance. C'est aussi ça, reconnaître Jésus. Il y a d'autres croyants qui, par exemple, voient souvent Jésus au travers des pauvres. C'est vrai que quelqu'un qui est dans la pauvreté, dans le dénuement, pour nous, c'est un appel de Dieu à pourvoir un besoin de l'humanité. C'est ça le but de notre vie. C'est pour ça qu'on est là, pour apporter quelque chose de Jésus là où il y a un besoin et un manque. Nous ne sommes pas le sauveur du monde entier. Vous le savez, ça. On peut, même si vous distribuez tout votre argent, il y aurait quand même encore des pauvres. Mais nous pouvons être amenés, donc, à reconnaître Jésus dans des circonstances et dans des situations tout à fait particulières. Rappelez-vous aussi que Dieu s'est manifesté dans le passé, soit sous la forme d'envoyer des anges, ou même l'ange de l'Éternel est apparu dans certaines situations. Donc, à nous aussi de reconnaître l'action de Dieu dans notre vie. En quoi c'est important ? C'est parce que c'est bien de dire, moi je crois que Jésus est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde, parce qu'il l'a promis dans Matthieu 28, ça c'est une chose. Mais c'est aussi bien de le voir réellement en action et à l'œuvre, ou de le voir tel qu'il voudrait que j'agisse. Jean 17, 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui qui a envoyé Jésus-Christ. » Amen.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.